C'est une histoire de géopolitique.
C'est le géopolitique.
C'est une histoire de
géopolitique.
C'est
le cœur de la géopolitique.
C'est le géopolitique. C'est une histoire de géopolitique. C'est une histoire de
géopolitique. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau épisode du Géopolitique. Cette semaine, on va parler de la géopolitique de l'Union Européenne. Et pour cela, on va faire l'étude d'un article issu de la revue internationale et stratégique numéro 122, paru en 2021 et écrit par Sylvie Berman. Évidemment, la référence sera trouvable dans la description. Donc cet article, il est intitulé « L'Europe géopolitique ou géopolitique de l'Europe, quelle place pour l'Union Européenne dans la compétition des grandes puissances ?» Ursula von der Leyen, lors de sa prise de fonction à la tête de la Commission européenne, a déclaré être à la tête d'une commission géopolitique. Cela semble étonnant de la part de l'Union européenne, qui traditionnellement était fondée sur une dynamique de coopération économique et de préservation de la paix. Selon Sylvie Berman, l'Union européenne prend en fait conscience de sa vulnérabilité post-moderne. C'est également ce que dit Gideon Rachman dans une citation reprise par l'article lorsqu'il parle de l'Union européenne comme étant herbivore dans un monde de carnivores. Comme le dit Berman, le monde autour de l'Europe a considérablement changé. Des puissances se sont réaffirmées, d'autres se sont construites peu à peu, et l'Union européenne doit maintenant se positionner stratégiquement sur cet échiquier mondial si elle veut survivre.
La géopolitique internationale est donc très complexe et nous avons deux blocs qui ont émergé ces dernières années, un bloc pacifique emmené par la Chine et certainement l'Inde qui va suivre, et puis de l'autre, un bloc atlantique mené bien évidemment par les États-Unis. Entre ces deux blocs, l'Union européenne doit tracer son chemin. Et puis, après le retour de Joe Biden à la présidence des États-Unis, eh bien, le vent semblait bien en poupe pour les Européens, suite au passage de Donald Trump, qui semblait plus hostile pour l'Union européenne et donc peu coopératif vis-à-vis des alliés européens traditionnels. Alors, on peut bien sûr citer des événements clés, comme la sortie des États-Unis de l'UNESCO, puis de l'OMS, ou encore du traité de Paris pour l'environnement, signé en 2015. Pour autant, il faut se demander s'il faut se rallier complètement à Washington en faisant de la Chine un ennemi. Pour l'Union européenne, c'est une hypothèse qui semble pas évidente à choisir, l'Union européenne se doit peut-être de regarder les puissances autour d'elle avec un pragmatisme en acceptant que les intérêts de l'Union européenne ne coïncident pas toujours avec ceux des USA. La France avait déjà su le faire en 2003 par exemple. Évidemment, l'Union européenne doit également surveiller ses frontières, puisque en ce qui concerne la Russie, celle-ci est restée pour l'Union européenne un acteur important, puisque malgré l'embargo européen sur le pétrole et le charbon russe, le vieux continent est toujours dépendant en ce qui concerne le gaz liquéfié, le GNL. Si on se concentre sur la géopolitique à présent, on voit néanmoins que la guerre russo-ukrainienne a poussé l'Union européenne dans ses retranchements. Elle a dû difficilement réussir à parler d'une seule voix. La guerre à la porte de l'Europe force l'Union à réaliser ses faiblesses concernant sa dépendance énergétique, mais également sa capacité de défense et sa position géopolitique générale. Les 27 doivent trouver une voie commune. La question de l'élargissement est par ailleurs une question cruciale, puisque l'Union européenne a parfois du mal à parler d'une seule voix, et bien de nouvelles adhésions pourraient aggraver cette prise de décision commune. On peut alors citer les nombreux candidats officiels, il y en a 7, le Monténégro, la Macédoine du Nord, l'Albanie, la Moldavie, la Bosnie-Herzégovine, et puis deux candidats qui font un peu plus parler, d'un côté la Turquie, avec sa demande de candidature qui a été suspendue en 2019, et puis de l'autre, l'Ukraine, évidemment avec le contexte géopolitique que nous connaissons et la guerre face à la Russie.
D'autres thèmes vont être cruciaux pour l'avenir de l'Union européenne, puisqu'en effet la puissance est un leader dans le domaine agricole par exemple, en étant l'une des premières puissances agricoles mondiales. La PAC, effectivement depuis 1962, a eu de nombreux effets sur l'organisation de l'agriculture dans les pays de l'Union, avec une modernisation et une mécanisation de l'agriculture, faisant de l'Europe un leader, comme je l'ai dit, dans le domaine. En 2019, l'Union européenne a un chiffre de production agricole de 400 milliards d'euros, et c'est également le premier exportateur agricole au monde, avec un commerce important vers par exemple les États-Unis, la Chine ou encore le Japon. L'Europe pèse pleinement sur la scène agricole et alimentaire mondiale. Comme le disent Sébastien Abyss et Mathieu Brun dans leur article « Géopolitique de l'agriculture européenne en 2020 », l'Union européenne se positionne sur un triptyque gagnant, c'est-à-dire qu'elle produit en quantité, en qualité et elle diversifie ses activités. Elle se présente donc comme la figure à suivre dans ce domaine, au travers de mesures comme la création de normes avec l'AOC ou encore l'AOP, ou encore des indications géographiques. Cependant, un nouveau défi se pose face à la politique agricole de l'Union européenne, rendre ses pratiques plus vertes et plus fidèles à la protection de l'environnement, tout en évitant d'exposer les 27 à une insécurité alimentaire. Un autre domaine dans la géopolitique mondiale où l'Union européenne est avant-gardiste, c'est celui de la protection des données, avec notamment le Règlement général sur la protection des données, RGPD. Face aux géants du numérique que sont les GAFAM et les BATX, l'Union européenne tente tant que bien que mal de se positionner et de protéger ses utilisateurs en obligeant à un consentement explicite et éclairé des individus. Les données prenant en effet une place de plus en plus conséquente dans l'échiquier mondial, l'utilisateur devrait être capable de savoir de façon intelligible et transparente ce que deviennent celles-ci et en avoir le contrôle.
Nous assistons à une véritable course géopolitique et il faut sortir les muscles pour être celui qui va la remporter. L'Union européenne doit donc, sortir son épingle du jeu. Il va lui falloir jongler entre de nombreux défis, puisque comme le dit Florian Louis, l'Union européenne a su depuis des décennies mettre avec succès sa puissance économique au service de la diffusion globale de ses normes. Elle peut envisager de mettre sa puissance géopolitique en formation au service d'une propagation de son savoir-faire cosmopolitique à l'échelle planétaire. En d'autres termes, de changer de cap tout en le garnant. On a compris que c'était assez difficile. Les pays européens doivent donc définitivement faire front ensemble pour peser dans la balance du monde en construction. Comme l'a dit Jean Moulin, faire l'Europe, c'est faire la paix.
Bienvenue dans Hard Power, une chronique du géopolitique qui analyse les enjeux de défense et de sécurité à l'international. Antoine vous accompagne au cœur de la géopolitique mondiale avec sérieux et légèreté.
Le plan Messmer dans les années 70 a introduit ce que l'on a coutume désormais de nommer en France le tout nucléaire. En effet, la France est l'un des pays les plus dépendants de l'énergie nucléaire dans le monde, avec environ 70% de sa production électrique provenant de centrales nucléaires. Cependant, cette dépendance soulève des questions importantes en matière de sécurité nucléaire. De Tchernobyl en avril 1986 à Fukushima en 2011, la France a regardé ces catastrophes avec la volonté de faire de nos centrales des forteresses nucléaires. Plongeons donc au cœur des réacteurs en analysant comment ce parc nucléaire français, fleuron et fierté nationale, est chaque jour protégé. J'ai décidé aujourd'hui d'intituler ma chronique « Au cœur des réacteurs, analyse de la sécurité nucléaire en France ». C'est parti. Premièrement, examinons la conception et la technologie des centrales nucléaires françaises. Le parc nucléaire français est principalement composé de réacteurs à eau pressurisée, REP. Ces réacteurs sont considérés comme sûrs, mais comme tout système complexe, ils ne sont pas à l'abri de risques potentiels. La conception des centrales, la qualité des matériaux et la maintenance régulière sont cruciales pour assurer la sécurité. En matière de sécurité, la France dispose d'une autorité de sûreté nucléaire, ASN, indépendante, chargée de réglementer et de contrôler l'ensemble de l'industrie nucléaire. L'ASN joue un rôle clé dans l'évaluation des risques, la surveillance des installations et l'émission d'autorisation. Les inspections régulières garantissent que les exploitants respectent les normes de sécurité les plus strictes. Oui, mais voilà, le projet de réorganisation de la sûreté nucléaire a fait son retour, cette fois dans un projet de loi sorti le 20 décembre 2023 en Conseil des ministres et qui sera examiné au Sénat à partir du mois de février 2024. Ce projet prévoit notamment une fusion entre l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire avec l'autorité de sûreté nucléaire, le premier étant public et sous la tutelle de ministère, le deuxième étant totalement indépendant et se présentant comme le gendarme du nucléaire. On comprend donc que les tensions sont palpables et que ce qui est véritablement en jeu, c'est notre sécurité nucléaire. Or, on ne joue pas et fondamentalement pas avec des atomes. Dans ce projet de loi, l'ASN et l'IRSN seront regroupés au sein d'une autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ASNR, dont la naissance est programmée au 1er janvier 2025. Pour le gouvernement, cette évolution permettra de répondre aux attentes en termes de délai et d'efficacité des processus d'expertise, d'instruction, d'autorisation et de contrôle. Or, du côté des experts de l'IRSN, on exprime la crainte d'une réorganisation qui conduirait, je cite, à une dégradation du système de gouvernance de la sécurité nucléaire et à une baisse du niveau de protection de la population. Un aspect crucial de la sécurité nucléaire réside maintenant dans la gestion des déchets radioactifs. La France a développé un programme de gestion des déchets nucléaires avec des installations de stockage à long terme en cours de développement. Cependant, la question de l'acceptabilité sociale de ces sites reste un défi, soulignant l'importance de la transparence et de la communication avec le public. Enfin, un autre élément à considérer est la menace potentielle d'actes malveillants, tels que le terrorisme. Les centrales nucléaires font l'objet d'une vigilance constante en matière de sécurité, avec des mesures renforcées pour prévenir tout incident malveillant. La coordination entre les autorités civiles et militaires est essentielle pour assurer une réponse rapide et efficace en cas d'urgence. La sécurité nucléaire en France repose donc sur une combinaison de facteurs allant de la conception des centrales à la gestion des déchets et à la prévention des actes malveillants. La vigilance constante, la transparence et la coopération entre les différents acteurs sont essentielles pour garantir la sûreté des installations nucléaires dans le pays. La France continue de travailler à l'amélioration de ses normes de sécurité pour faire face aux défis actuels et futurs liés à l'énergie nucléaire. Et comme le disait Théodore Monod, l'arme nucléaire, c'est la fin acceptée de l'humanité. Bien justement, pour contrer cette fin de l'humanité, la France met en place des moyens de sûreté.
Bon, si je parle de l'Union européenne, tout le monde connaît. Si je parle du Mercosur, peut-être qu'il y a quelques lacunes. Alors on va commencer en vous expliquant qu'est-ce que c'est que le Mercosur. Eh bien le Mercosur, c'est le marché commun du Sud, une association créée en 1991 lors du traité de l'Asunción et institutionnalisée en 1995 avec la fondation d'un traité de libre-échange. Il regroupe les principaux pays d'Amérique latine. C'est en fait une organisation, comparée à l'Union européenne, à une différence près, le Mercosur n'est pas un regroupement d'États sur le plan politique, mais seulement économique. Or, cela est en train de changer, de plus en plus, avec une montée en puissance de l'organisation, originairement seulement économique. Alors l'objectif ici va être de voir comment l'Union européenne traite son semblable du Sud, le Mercosur.
Eh bien Gauthier, c'est une association qui est finalement assez difficile puisque depuis plus de 25 ans, l'Union européenne tente en vain de négocier un accord de libre-échange avec le Mercosur. Cet échec retentissant avec sa dernière négociation en décembre 2023 marque les difficultés de l'Union européenne à négocier avec des organisations parfois trop loin de ses standards communautaires. En effet, le Mercosur a une histoire encore plus complexe que l'Union européenne, puisqu'en effet, des associations successives visant à unifier l'Amérique latine vont en fait la fragmenter de plus en plus, symbolisant le caractère unique de l'Union européenne, seule organisation politique d'une telle ampleur, comme Gauthier l'a dit. En effet, comme nous pouvons observer sur une carte que nous allons vous mettre évidemment en lien de l'épisode, on voit que le Mercosur s'est construit difficilement. La MCCA, qui s'est donc créée en 1960, le marché commun centra-américain qui rassemblait essentiellement à l'époque des pays d'Amérique centrale, et ce n'est plus le cas aujourd'hui avec le Mercosur. On peut également parler de l'UNASUR en 2008, qui est en fait l'Union des Nations Sud-Américaines. Au total, on retrouve plus d'une dizaine d'organisations. On voit donc au final qu'on a des coopérations un petit peu partout en Amérique latine, que ce soit en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, et qu'au final, la multiplication de ces coopérations est finalement source de fragmentation. En effet, même le Mercosur ne rassemble même pas tous les pays d'Amérique latine, puisque finalement, il ne rassemble que le Brésil, le Venezuela, le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine et a également en membre associé la Bolivie.
En fait, vous l'aurez compris, l'Amérique latine, c'est un gros bazar du point de vue organisationnel. L'Amérique latine est donc trop instable pour devenir un partenaire commercial de premier plan. Mais en fait, l'Union européenne a beaucoup de concurrence quand il s'agit de signer des contrats avec l'Amérique latine. D'abord, les actions américaines d'influence sont très nombreuses. Depuis la guerre froide, le continent américain doit être l'arrière-cour des USA, quoi qu'il en coûte. De tout temps, l'Amérique latine est un partenaire commercial dépendant de la puissance américaine. Effectivement, les États-Unis ont toujours voulu conserver leur influence face à la puissance de l'URSS, jadis, et puis maintenant, de la puissance chinoise montante. Ils sont en fait inquiets du potentiel ralliement de Milei aux BRICS, qui arrangerait la Chine, qui fait même elle-même partie de l'organisation des BRICS. En 1947, les diplomates américains préconisent déjà de s'opposer à tout ce qui pourrait faciliter la formation d'un bloc du Sud, qui mettrait en danger une unité hémisphérique. Et puis il n'y a pas seulement les États-Unis qui placent leur pion en Amérique latine, la Chine aussi. Effectivement, la Chine construit des corridors de développement en Amérique latine dans le cadre des routes de la soie. Ils financent donc des États avec des prêts, comme cela a déjà été fait sous le nez de l'Union européenne en Europe, avec notamment le Monténégro et en Macédoine du Nord. L'Union européenne semble donc se retrouver stratégiquement piégée, ne sachant pas comment se démarquer et faisant office, une fois de plus, d'éternel troisième.
Mais alors, pourquoi le Mercosur reste-t-il seulement une association économique et n'a-t-il jamais réussi à devenir politique comme l'Union européenne ? On a eu des tentatives, puisqu'en effet, avec l'arrivée en 2003 des présidents brésiliens Luiz Inácio Lula da Silva et argentin Néstor Kirchner, le Mercosur prend un nouvel élan marqué par le retour des questions politiques, le développement productif, les thématiques sociales ainsi que la création de canaux de représentation et de participation populaire au sein des structures institutionnelles de l'organisation, notamment avec la création du Parlement Parlasur, de l'unité de soutien à la participation sociale, de l'institut social, de l'institution de politique publique en matière de droits humains, du Fonds pour la convergence structurelle. Le consensus de Buenos Aires, forgé par les deux présidents, cherche à transformer le marché commun du Sud en cadre d'action géopolitique. Un nouveau pôle de pouvoir favorisant l'intégration régionale et la coopération Sud-Sud, selon la journaliste Clédis Candela-Ressi. On a un nouvel échec avec le retour au pouvoir de conservateurs durs, puisqu'en effet, une fois la parenthèse progressiste latino-américaine refermée, le retour de la droite au Paraguay en 2012, en Argentine en 2015, puis au Brésil en 2016, cela renvoie à un Mercosur débarrassé du Venezuela. Le pays a été suspendu en 2017, et donc il revient à ses origines purement commerciales. 30 ans après avoir signé le traité d'Asunción, l'ex-président uruguayen Luis Alberto Lacalle estime urgent de desserrer les liens entre les États membres, de les rendre purement commerciaux et de supprimer les armatures politiques. Actuellement au pouvoir, son fils, le président Luis Lacalle Pou, élu en novembre 2019, paraît quant à lui s'être donné pour mission de saborder le traité de 1991, en prônant une flexibilisation qui permet à chaque membre de conclure des accords commerciaux de manière unilatérale. Son gouvernement, déjà en négociation avec la Chine et la Turquie, menace de faire imploser l'union douanière et de transformer le Mercosur en simple zone de libre commerce. Il a aussi officiellement remis, fin 2022, sa demande d'adhésion au partenariat transpacifique TPP, un accord de libre-échange dont font déjà partie le Chili, le Mexique et le Pérou, s'attirant les foudres de ses partenaires.
En fait, c'est un petit peu malheureux à dire, mais si le Mercosur ne s'est jamais vraiment émancipé, c'est à cause des mauvais choix des dirigeants sud-américains. Comme l'explique l'Uruguayen Ubaldo Aita, membre du groupe progressiste au Parlasur, le marché est incapable de relever seul les défis auxquels nous sommes confrontés. Au contraire, la division internationale du travail cantonne notre région à la production de marchandises avec peu de valeur ajoutée. Donc, ouvrir les vannes du commerce avec le vieux continent permettrait-il vraiment de sortir les pays du Mercosur de l'ornière économique dans laquelle ils se trouvent? Certains en doutent. L'Amérique latine a l'intention de s'industrialiser, prévenait déjà le chef de la délégation argentine au Parlasur. Notre objectif est de développer notre région. Nos peuples n'ont pas besoin d'un accord avec l'Union européenne qui ne servirait qu'à consolider la primarisation de notre économie, ajoutait-il à ses homologues écologistes européens, eux sensibles plutôt à la déforestation, au changement climatique et à l'emprise de la culture du soja. En réalité, il y a deux unions qui ont envie de s'unir, mais pas sur les mêmes points. Effectivement, d'un côté on a des pays en développement, de l'autre des pays développés qui n'ont donc forcément pas les mêmes intérêts. Mais évidemment, on peut aussi redouter les limites d'un Mercosur progressiste, reposant sur l'actuel renforcement de l'alliance stratégique entre Buenos Aires et Brasilia, qui serait donc exposé aux fluctuations politiques. Effectivement, le résultat de l'élection présidentielle de octobre dernier en Argentine a été plutôt surprenant, et aussi face aux exigences libérales européennes. Le traité avec l'Union européenne est ainsi souvent présenté comme un accord « car for cause », des voitures contre des vaches, représentatif des échanges nord-sud classiques qui pourraient accentuer les asymétries au sein du bloc latino-américain. Ça faisait longtemps que t'avais pas réagi, Antoine, t'as quelque chose à nous dire par rapport au Mercosur?
Oui, ton dernier point, Gauthier, est assez intéressant sur les vaches contre les voitures. On voit bien qu'en ce moment, l'Union européenne connaît une crise avec le monde agricole. On voit en Allemagne des manifestations assez intensives du monde agricole. En France, on a vu que les agriculteurs commençaient à retourner, vous avez vu les panneaux à l'entrée des villes pour dire que le monde était à l'envers. Et justement, l'une des revendications de ces agriculteurs un peu partout à travers l'Europe, c'est justement ces traités assez inégaux qui sont signés entre l'Union européenne, qui, comme vous l'avez dit, Manon et toi, est une intégration régionale très aboutie, à l'inverse du Mercosur qui connaît des instabilités, et on signe des contrats où on impose des grandes et des normes très conséquentes aux agriculteurs en France, et à l'inverse, on fait venir notamment donc, de la viande, des vaches et des aliments qui sont produits dans des conditions que nous-mêmes nous imposons pas, et là, il y a un point de friction, on voit bien, entre ces deux instances que sont l'Union européenne et puis le Mercosur.
Mais c'est de la concurrence déloyale hein, que tu es en train de signifier, effectivement. Un traité ne devrait être signé que s'il permet de renforcer l'Union européenne. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.